9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. 3 milliards de personnes désormais en confinement, la moitié de l'humanité, déjà 25 000 morts. Une épidémie qui flambe en Europe et aux États-Unis et partout, comme en France, un saut vertigineux dans l'inconnu. D'ici 10h, nous ferons le point de la situation dans les hôpitaux avec le professeur de réanimation à Cochin, Jean-Daniel Chiche. Nous ferons le point des connaissances sur le virus et sur la maladie avec le microbiologiste Patrick Berche. Et nous ferons le point des fausses nouvelles, remèdes miracles et autres théories du complot avec le sociologue Gérald Bronner.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour professeur Jean-Daniel Chiche.
Bonjour.
Chef adjoint du service de réanimation à l'hôpital Cochin à Paris. La réanimation, c'est le bout de la chaîne dans un hôpital, l'accueil des patients les plus graves, des questions de vie ou de mort. Quelle est la situation chez vous ce matin ?
Bah, tous les lits de réanimation sont pleins. On s'est préparé à cette situation, mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, la situation dépasse nos prévisions, puisque les scénarios qu'on avait étaient autour de 1000 patients ventilés sur la région parisienne, et on ne va pas tarder à s'approcher de scénarios qu'on n'avait pas anticipés autour de 2000 patients. Donc, aujourd'hui, on n'est pas très très loin d'être dépassé déjà.
C'est-à-dire que vous n'êtes plus capable, là aujourd'hui, d'accueillir de nouvelles personnes à soigner en réanimation.
C'est-à-dire qu'il faut... On a été obligé d'adapter la façon dont on travaille, et notamment, on a été obligé d'ouvrir des lits dans des secteurs qui n'étaient pas initialement prévus pour, ce qui a évidemment... qui s'associe à des difficultés logistiques, non seulement en termes de matériel, mais également en termes de personnel, et notamment de personnel... paramédical, et qu'aujourd'hui, on travaille en faisant sortir dès que possible des structures les plus lourdes vers des structures de réanimation un peu moins lourdes, les patients qui n'ont plus qu'une seule défaillance d'organes pour pouvoir en accueillir d'autres, tout en réfléchissant de façon assez inventive pour voir comment on va pouvoir ouvrir de nouveaux lits.
C'est-à-dire que vous avez augmenté vos capacités ces derniers jours, et que vous réfléchissez aux moyens de pouvoir le faire encore. Que vous manque-t-il désormais pour le faire ? Des hommes, du matériel, des médicaments ?
Alors, il manque du matériel, évidemment. Il manque des respirateurs de réanimation. Aujourd'hui, la tension est majeure parce qu'un certain nombre de fabricants ont augmenté beaucoup leur production. Mais ces respirateurs ont été envoyés en Asie, qui avait quelques mois d'avance sur l'épidémie. Et aujourd'hui, on a énormément de difficultés à identifier des respirateurs disponibles sur le marché. On a besoin de matériel de perfusion et on a besoin évidemment de personnel, et notamment de personnel paramédical. Il ne suffit pas pour ouvrir un lit de réanimation, il ne suffit pas d'avoir une chambre avec un lit dedans et un peu de matériel autour. Vous avez évidemment besoin d'avoir du personnel formé et compétent pour prendre en charge ces patients. Et ça, c'est aujourd'hui un enjeu majeur.
Est-ce que vous avez, comme dans d'autres établissements, formé en urgence des infirmières pour qu'elles occupent des postes de médecins en réanimation ?
Alors, pas pour qu'elles occupent des postes de médecins. Aujourd'hui, sur le personnel médical, la tension existe, mais elle est moins vive, dans le sens où, comme vous l'avez déjà exposé, toutes les activités chirurgicales non programmées, par exemple, programmées, ont été déprogrammées. On a redistribué les moyens, de sorte que nos collègues anesthésistes réanimateurs nous donnent un coup de main. Et c'est pas tellement en termes de personnel médical qu'on a un souci. En revanche, on est obligé effectivement de former des infirmières qui sont des infirmières de salle, comme on dit dans notre jargon, qui sont pas habituées à prendre des patients en soins critiques et en réanimation, pour les former en urgence à prendre en charge ces patients sous ventilation artificielle pour l'essentiel d'entre eux, parce que c'est effectivement... la défaillance numéro un que présentent ces patients, et c'est évidemment une défaillance qui nécessite une assistance respiratoire qui est très technique et pour laquelle il y a besoin d'avoir des compétences spécifiques.
Dans votre personnel, il y a des soignants malades ?
Évidemment, on a malheureusement à déplorer des soignants malades, essentiellement dans le personnel médical en réanimation, parce que ce sont les médecins qui sont amenés à être en contact le plus proche avec les, les voies aériennes des patients. On a deux de nos médecins qui sont actuellement malades. Oui.
L'appel à volontaires qui a été lancé il y a quelques jours, est-ce qu'il a porté ses fruits? Est-ce que vous avez des personnes qui vous aident aujourd'hui, qui ont une formation médicale et qui peuvent donner un coup de main à l'hôpital?
Alors, clairement, pour ce qui est de la réanimation, on avait anticipé cet appel à volontaires, c'est-à-dire que très en amont, avant même le cri d'alarme de Martin Hirsch sur les antennes, on avait contacté tous les gens qu'on a formés, dont on savait qu'ils étaient compétents en réanimation, pour pouvoir réorganiser notre prise en charge. Donc ça, c'est une première chose qui avait été faite. Maintenant, la réserve sanitaire, je crois que c'est quelque chose qui marche pas mal, où plein de gens se sont manifestés pour venir aider. Ceci dit, sur des secteurs comme la réanimation, c'est très compliqué parce que ça nécessite vraiment une compétence très spécifique, une compétence technique, et c'est encore plus vrai dans une situation tendue où aujourd'hui, encore une fois, dans notre service, par exemple, 24 patients sont les 24 sous respiration artificielle, ce qui est une situation assez exceptionnelle.
Bien sûr.
Donc ce ne sont pas les services de réanimation qui ont bénéficié à premier titre, mais évidemment, ça nous permet de délocaliser d'autres personnels qui sont parfois d'anciennes infirmières de réanimation qui sont aujourd'hui dans des services de médecine et qu'on peut réaffecter à nos services de réanimation temporairement.
Quel est le moral de vos équipes ce matin, professeur?
Écoutez, je vais vous dire qu'elles sont combatives, résilientes. Clairement, elles sont inquiètes aussi parce que on mesure bien qu'on est encore au creux de la vague et que ça va vraisemblablement continuer à monter, que le nombre de patients va probablement continuer à s'amplifier jusqu'au 15 avril. Et évidemment, leur inquiétude numéro un, c'est de pouvoir faire face. Et comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'on va pouvoir proposer un lit en réanimation et une prise en charge aux patients qui en ont besoin? Mais elles sont très clairement combatives. J'ai coutume de dire qu'on ne lâche rien en réanimation et nos équipes ne lâchent rien et ne lâcheront rien. Vous pouvez compter sur nous.
Oui, mais vous redoutez d'être submergé, de ne plus pouvoir faire face à très brève échéance?
Nous redoutons d'être dans une situation où effectivement, malgré tous les efforts qui sont faits pour essayer d'augmenter les capacités d'accueil, le nombre de lits, que l'épidémie continue à progresser, et notamment que le pourcentage de cas graves continue à augmenter, et qu'on se retrouve dans une situation où effectivement on est dépassé. C'est pour ça que on prend avec énormément de on pense que le confinement, la poursuite du confinement, c'est quelque chose de très sage et qu'on appelait de nos voeux de toute façon.
Bien sûr. Il faudra sans doute organiser d'autres transferts à travers la France pour soulager des hôpitaux saturés.
Alors c'est quelque chose qu'on peut envisager. Et en Ile-de-France, il faut reconnaître qu'on a la chance d'avoir un capacitaire qui est très au-delà de ce qu'on a dans d'autres régions de France. Et je pense qu'il y a malheureusement assez peu de régions sur lesquelles on va pouvoir se délester. Je vois que le Grand Ouest peut pour l'instant venir en appui au Grand Est qui était totalement dépassé, mais je crois qu'il va aussi falloir, quand tout ça sera passé, qu'on réfléchisse à nouveau la carte sanitaire de notre pays, qu'on réfléchisse surtout l'offre de soins en réanimation, où la France est à peine à la moyenne des services européens, avec 11,6 lits pour 100 000 habitants, lorsque nos collègues allemands bénéficient de 29 lits pour 100 000 habitants. Et on est obligé de se dire, quand on regarde les chiffres de mortalité aujourd'hui, qu'il y a peut-être un lien de cause à effet.
La question du choix des malades admissibles en réanimation, cette question se pose tous les jours, crise ou pas, nous l'avons déjà dit ici et la semaine dernière avec l'un de vos collègues de l'hôpital Avicenne. Mais là, au milieu de cette catastrophe, est-ce que vous redoutez d'avoir des pertes illégitimes, des personnes que vous auriez pu sauver si vous aviez davantage de soignants, de lits ou de matériel?
Je voudrais d'abord insister à nouveau sur ce que vous venez de dire et ce qui avait été dit par mon collègue, c'est qu'effectivement le travail que nous faisons sur les admissions en réanimation et la réflexion du bien fondé d'admission, c'est un travail qui a lieu quotidiennement dans les services de réanimation. Nous sommes là pour, en quelque sorte, créer des deuxièmes vies, et des deuxièmes vies qui ont du sens. Et il est évident que c'est une réflexion, le bénéfice potentiel pour les patients que nous admettons, c'est une réflexion que nous menons tous les jours de l'année. De ce point de vue-là, les équipes de réanimation sont habituées à avoir cette discussion. Est-ce qu'aujourd'hui, nous craignons d'être dans une situation où nous sommes amenés à faire des choix? Je dirais que tout a été mis en œuvre pour qu'on ne soit pas dans cette situation-là. Et notamment, on essaye toujours d'avoir un coup d'avance en réanimation en prévoyant des structures d'aval qui vont monter en charge également des services de soins post-réanimation qui vont prendre des patients un peu plus graves qu'à l'accoutumée et qui vont jouer leur part de ce dispositif pour que effectivement on puisse concentrer dans les services de réanimation aujourd'hui les patients les plus graves et pour lesquels on a un espoir de récupération ad intégrante.
Jean-Daniel Chiche, professeur de réanimation à l'hôpital Cochin et président de la fondation One qui promeut la réanimation. On va en parler et on poursuit cet entretien après une courte pause.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen en direct de chez lui.
Et toujours en ligne avec le professeur Jean-Daniel Chiche, chef adjoint du service de réanimation à l'hôpital Cochin. Professeur, je voudrais vous nous parliez des malades. Quel est le profil de ceux que vous accueillez dans votre service de Cochin?
Les patients qu'on accueille aujourd'hui sont donc tous des patients Covid+, comme on dit dans notre jargon d'aujourd'hui, c'est-à-dire tous des patients infectés par le coronavirus. Et ils ont tous une défaillance respiratoire qui est au premier plan et qui nécessite aujourd'hui d'être mis sous ventilation artificielle. Cette défaillance est plus ou moins sévère et souvent on part pour, je dirais, 14 jours de ventilation artificielle à peu près, ce qui est un des enjeux majeurs de la gestion de cette crise, c'est de savoir si justement, parce que ces patients vont être ventilés longtemps, on va pouvoir continuer à les accueillir. Donc ce sont tous des patients en défaillance respiratoire, quelques patients présentent d'autres défaillances d'organes associés, notamment des défaillances rénales. Mais ce qui est au premier plan chez ces patients et qui est assez particulier, je dirais, c'est l'intensité de cette défaillance respiratoire.
Chacun a été frappé par le décès de cette adolescente de 16 ans, Julie, cette semaine à Necker. Vous avez vu arriver des jeunes malades à Cochin?
Alors, pas 16 ans. On a vu arriver des patients, effectivement, jeunes, autour d'une quarantaine d'années. Alors, on se pose beaucoup la question de savoir si ces patients ont des comorbidités. Et on entend parfois dans les médias le fait que ces patients n'ont pas de comorbidités. Et là, je pense qu'il y a une précision qui est importante à apporter, c'est que la majeure partie de ces patients ont de l'hypertension artérielle, du diabète, de l'obésité, des choses qui sont peut-être pas complètement intégrées dans la société comme étant des comorbidités, mais qui montrent bien quelque part l'état de santé de la population aujourd'hui. Et on se rend compte au cours de cette épidémie coronavirus que ces comorbidités qui viennent, je dirais, de l'exposition à notre société du 21e siècle, ont un poids dans notre capacité à nous défendre contre les infections et on peut imaginer que dans des pays comme les États-Unis où l'incidence de ces maladies est encore plus importante, la mortalité de cette épidémie va être bien, bien plus importante encore. Donc peu de patients très jeunes et surtout pas de patients jeunes sans comorbidité.
Vous avez lancé hier avec une cinquantaine d'autres réanimateurs un appel dans le journal Le Monde, un appel aux patients et à leurs familles pour vous aider à participer à la recherche clinique sur ce Covid-19. Pourquoi cet appel? Vous manquez de volontaires?
On ne manque pas de volontaires, mais vous avez vu que dans les jours qui viennent de passer, les politiques, les journalistes se sont invités dans le débat scientifique. Et ça complexifie énormément l'obtention de ce qu'on appelle le consentement éclairé pour la recherche clinique. Il y a depuis maintenant de nombreuses années des dispositions éthiques qui sont extrêmement importantes pour que l'on puisse obtenir des données scientifiques de qualité où les patients sont inclus dans des essais avec un consentement éclairé. Et le fait qu'il y ait eu énormément de battage médiatique sur un certain nombre de médicaments comme l'hydroxychloroquine fait qu'il y a une pression qui est mise sur les équipes pour que les patients bénéficient des traitements en dehors de ces essais cliniques qui sont absolument indispensables si on veut établir d'une part la preuve de l'efficacité et de l'innocuité de ces traitements, et pour obtenir des preuves scientifiques, ça nous paraît un élément absolument indispensable.
Oui, pour des démonstrations. Oui. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que d'éventuels volontaires font savoir à leur médecin qu'ils veulent bien participer à l'étude, mais à condition d'avoir de l'hydroxychloroquine.
Voilà, ou qui réclament le traitement sans même vouloir participer à l'étude, ce qui nous paraît totalement inacceptable. Il faut bien voir qu'en plus de ça, en réanimation, la majeure partie des patients qui se retrouvent notamment sous ventilation artificielle ne peuvent pas consentir eux-mêmes puisqu'ils sont inconscients. Mmh. Et le consentement est obtenu auprès des familles. Et évidemment, quand on écoute les médias aujourd'hui et même quand on voit les dispositions qui ont été prises avec ce décret ministériel, il y a une pression qui est mise pour obtenir ces traitements en dehors des essais cliniques qui nous paraît totalement contre-productive et peu acceptable.
Oui, enfin, vous avez cité les médias et les politiques, mais à la base, c'est l'un de vos collègues, professeur à Marseille, au CHU de la Timone, qui a créé cette agitation. Tout de même, il faut le rappeler.
Qui reconnaît bien également que 24 patients ne suffisent pas et qu'ils font un essai clinique, et cet essai clinique est en cours, donc attendons les résultats.
Oui, bien sûr, des démonstrations scientifiques rigoureuses. Vous avez créé, il y a 2 ans, professeur Chiche, la fondation 101, mais ça se prononce 101. One, c'est quand on est debout et zéro quand on est couché, c'est ça?
C'est ça, One, vous êtes debout avec des projets pour demain, vous êtes en pleine forme, vous vivez votre vie de façon entière et puis d'une minute à l'autre, vous vous retrouvez ou un de vos proches se retrouve en réanimation, on ne sait pas si demain va exister. Et l'objectif de cette discipline qui est totalement méconnue, c'est de vous ramener en position One. En position debout avec une deuxième vie que vous allez pouvoir vivre également de façon entière. Et il ne vous échappera pas que c'est 0 et c'est 1, c'est aujourd'hui le langage du digital et nous essayons d'investir le champ de ces nouvelles technologies pour faire en sorte qu'on soigne mieux, qu'on applique ce qui est connu et qui doit être appliqué dans tous les services de réanimation, qu'on comprenne mieux et qu'on fasse de la recherche, notamment en profitant de toute la recherche qui peut être faite sur les données qui sont recueillies chez les patients de réanimation. Un patient de réanimation, ça génère à peu près 10 000 points de données par jour et par patient. Et quand on regarde ces données, on peut commencer à mieux comprendre en comprenant et en mesurant ce qu'on fait dans le soin clinique quotidien et en fusionnant le soin clinique et la recherche. Et l'autre objectif, c'est effectivement de mieux accompagner ces patients et leurs familles pour laquelle l'hospitalisation en réanimation, c'est un choc assez violent. On estime que le stress post-traumatique de quelqu'un qui vient de passer 3 semaines en réanimation, c'est à peu près 5 fois le stress post-traumatique des soldats de l'ONU qui reviennent de mission. On n'y consacre pas aujourd'hui, malheureusement, exactement l'énergie qu'on devrait y consacrer, alors que le poids sociétal de la réanimation aujourd'hui est absolument majeur.
Et vous le disiez tout à l'heure, la France est sous-équipée en réanimation et la discipline est négligée. Comment vous l'expliquez?
Alors, ça a été une discipline pendant très très souvent dans l'ombre, puisque pendant des années, nous nous sommes enfermés à double tour dans nos services, sans réellement communiquer. Et puis, nous sommes quelque part une discipline de passeurs. Vous arrivez en réanimation à cause d'un accident brutal, aigu, d'une maladie cardiaque, d'un cancer, d'une complication d'un cancer, d'un accident de la route. Et puis, lorsqu'on vous a sorti de cette situation extrêmement difficile, vous sortez pour retourner vers un autre service d'aval où le héros, ce n'est pas l'équipe de réanimation. Le héros, c'est le cancérologue qui vous a guéri du cancer. Donc, je pense que c'est une des explications. Même si nous ne représentons que 3 à 4% des lits, on représente autour de 35% des dépenses d'un hôpital. Et quand on met en regard de ces 35% des dépenses, le poids de l'effort de recherche qui est consenti, on se rend compte de tout ce qui reste à faire, puisque on estime que à peu près 2 à 3% des crédits de recherche sont consacrés à des sujets qui touchent de près ou de loin la réanimation, alors que l'impact sociétal de la réanimation aujourd'hui est un impact majeur.
Merci beaucoup. Une adresse web pour votre fondation ?
www.one-o-one.eu.
Merci beaucoup Jean-Daniel Chiche, merci de nous avoir accordé cet entretien. Professeur de réanimation à Cochin et président de la fondation One Zero One O One. Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, ce que l'on sait, ce que l'on découvre encore sur ce virus, cette maladie et sa propagation avec le microbiologiste Patrick Bersch.
Europe 1. On continue à vous informer sur Europe 1. Alors comme chaque samedi de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine.
Bonjour professeur Patrick Bersch.
Bonjour Patrick Cohen.
Microbiologiste, vous avez dirigé le service bactériologie de l'hôpital Necker Enfant Malade, vous avez été le doyen de la faculté de médecine Paris Descartes et dirigé l'Institut Pasteur de Lille. Les scientifiques du monde entier tentent aujourd'hui de percer les mystères de ce virus inconnu il y a moins de 3 mois et de cette maladie nouvelle, le Covid-19. Qu'avez-vous appris de nouveau sur ce fléau ces dernières semaines ?
Bien écoutez, on progresse beaucoup. D'une part, on sait que ce virus provient de la chauve-souris, qu'il est probablement passé, même très certainement passé par le pangolin, et qu'il est apparu en Chine vers le 17 novembre probablement, et son identification a été faite à la mi-janvier par les Chinois avec la séquence. Donc on connaît maintenant son origine. Ça c'est le premier point. Deuxième point, ceci nous permet éventuellement de faire des tests diagnostiques. C'est pour ça qu'on a cette PCR et ces tests vont s'améliorer encore. Probablement des tests plus rapides vont apparaître avec un retour non pas en 3 heures mais en une demi-heure. Et puis surtout, on attend les tests sérologiques, c'est-à-dire la production dans le sérum d'anticorps qui permettront de savoir le degré d'immunisation de la population. Un virus nouveau se propage dans une population habituellement en touchant, quand il est très contagieux comme celui-ci, 40 à 70% de la population. En France, 40%, ça fait environ 30 millions de personnes. Donc, cela va déclencher une immunité de masse qui va permettre d'atténuer les vagues suivantes. Plus la population est immunisée, moins elle permet la propagation du virus. Donc on sait beaucoup de choses actuellement. Alors sur le plan thérapeutique, il y a l'hydroxychloroquine est discutée. Bon, pour le moment, les tests sont pas suffisants pour dire que c'est actif. Et puis, on teste aussi à l'échelon européen et à l'échelon mondial toute une série de molécules, en particulier des anti-HIV, qui anti-protéases, qui pourraient stopper la croissance du virus. Mais on ne sait pas encore s'ils seront actifs. Et puis, il y a des essais aussi de sérothérapie, c'est-à-dire utiliser le sérum de patients ou des anticorps monoclonaux pour pouvoir prévenir la réplication virale. Voilà, enfin, on sait beaucoup de choses. Puis il y a aussi l'immunothérapie avec le BCG qui est proposé par les Hollandais pour une immunité non spécifique pour pouvoir rendre plus résistants en particulier les personnels soignants.
En dopant notre système immunitaire, oui, avec le vieux vaccin par le BCG. Effectivement, c'est une étude qui vient d'être lancée. Mais, professeur, il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore, et notamment sur la maladie. Pourquoi elle s'attaque davantage aux hommes qu'aux femmes? Pourquoi les enfants ne sont pas touchés? Est-ce qu'on a une immunité après avoir été une première fois infecté? Tout ça, c'est des choses qu'on ignore encore, non?
On sait quand même alors c'est vrai qu'il y a une prédominance masculine. 57% en France de cas sont chez les hommes, et 43 chez les femmes. Cela peut être expliqué par les facteurs de risque des hommes. Les hommes sont plus souvent fumeurs, etc. Donc on peut penser qu'il y ait une plus grande sensibilité des hommes. D'ailleurs, la longévité masculine est plus faible. Elle est de 79 ans environ en France contre 85 ans pour les femmes. Donc ça, c'est un premier point. Alors pour les enfants, c'est une énigme. On ne sait pas pourquoi les enfants ne sont pas malades. En Chine, sur leurs 80 000 cas, ils avaient 1% d'enfants qui ont été hospitalisés. 3 ont été, ce qui fait 1700 enfants environ, 3 ont été en réanimation. Et ils ont guéri. En France, on n'a pratiquement pas de cas chez l'enfant. Il y a des cas, il y a eu ce cas chez cette malheureuse jeune fille, là, qui fait partie probablement de ces cas très rares que l'on voit tous les ans, de grippe mortelle. On voit quelques cas de grippe mortelle chez des jeunes, alors qu'ils n'ont aucun facteur de risque, donc ça reste quand même tout à fait exceptionnel. Et ce virus atteint surtout des personnes à partir de 40 ans, et il est mortel, avec une mortalité de 15% chez les personnes de plus de 70 ans. Donc, on sait quand même pas mal de choses.
On sait pas mal de choses. Un virus infectieux, très infectieux et contagieux à la fois, c'est cette combinaison qui le rend redoutable. Est-ce que ça le rapproche d'autres épidémies connues, d'autres virus que vous avez eu à observer ?
Ah ben écoutez, ça rapproche évidemment de la grippe, mais surtout de la grippe espagnole. La grippe espagnole, c'était un virus qui se répandait dans une population sans aucune immunité, ce qui est le cas de ce virus, qui a, sur une population mondiale à l'époque de 1,8 milliard, qui a touché environ 50%, peut-être même plus, de la population, et qui a fait quand même beaucoup de morts. Il a fait 50 millions de morts, mais on n'avait pas les moyens thérapeutiques actuels, en particulier on n'avait pas de réanimation, et on n'avait pas d'antibiotiques, ce qui explique cette forte mortalité. En temps de guerre en plus, avec tout ce que ça signifie.
Patrick Berge, vous restez avec nous, on vous retrouve dans un instant.
Europe 1. On vous retrouve, Patrick Cohen, pour cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
Avec le professeur de microbiologie Patrick Berche, ancien doyen de la faculté de médecine Paris Descartes. Professeur, nous vivons une crise majeure totalement inattendue, même si des alertes ont été lancées ces dernières années sur ce risque qui pourrait nous arriver, sur cette catastrophe. Avec la question qui n'a pas fini d'être posée, aurions-nous pu savoir, aurions-nous dû nous préparer plus tôt ? Alors je la pose à quelqu'un qui a passé sa vie, c'est votre cas, à étudier les bactéries, les virus et les épidémies. Vous, quand avez-vous vu que cette épidémie pourrait tourner à la pandémie mondiale et risquerait de nous submerger ? Quel événement, quelles données vous ont laissé penser que ça pourrait nous tomber dessus ?
Les données de janvier étaient assez inquiétantes en Chine, mais on n'était quand même pas prêts pour aborder une pandémie. Alors vous vous souvenez qu'en 2009, Roselyne Bachelot, qui avait été vraiment très critiquée, avait constitué des stocks très importants, et avant elle, pour la grippe, la menace de grippe aviaire, et ses dépenses avaient été très fortement critiquées, c'est moins qu'on puisse dire, par énormément de gens. Et donc vous voyez, alors à partir de 2010, on semble avoir baissé la garde, plus le fait que pour des raisons économiques, on fasse des économies sur l'hôpital, ça explique en partie, on n'était pas préparé pour une pandémie de cette ampleur qui était assez imprévisible. Mais on sait quand même, depuis 1970, on a isolé à peu près plusieurs centaines de micro-organismes nouveaux, donc on est à la merci de micro-organismes nouveaux, et une fois de temps en temps, heureusement rarement, l'un peut donner une épidémie ou une pandémie. Et là, on arrive à une pandémie proche de celle de la grippe espagnole. Ouais.
Voilà, donc c'était imprévisible, mais on n'était pas préparé à cette éventualité. Mais voilà. Je repose ma question là sur cet épisode-là. Qu'est-ce qui vous a fait dire, qu'est-ce qui vous a fait penser que ça pourrait nous arriver et dans une situation de crise telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire avec des populations contraintes entières contraintes au confinement pour éviter cette maladie.
rien ne pouvait empêcher sa dissémination à partir du foyer chinois. Quand on voit ce qui s'est passé à Wuhan, c'est une ville de 15 millions d'habitants. Je crois qu'il y a 5 ou 6 millions d'habitants qui sont partis avant tout confinement. Donc ça a été disséminé tout en Chine. Et nous avons ensuite de très fortes communications à l'époque aéroportées avec la Chine, entre l'Europe et la Chine, et la Chine et les États-Unis. Donc l'Afrique a été momentanément préservée parce qu'elle a beaucoup moins de communication aéroportée. Donc on pouvait s'attendre à ce que ça se dissémine, mais on n'avait pas... Alors il y avait une mortalité qui était annoncée par les Chinois, qui à mon avis a été certainement sous-estimée. Oui. On a beaucoup de mal à croire qu'un pays, même avec ses mesures de confinement, ait si peu de morts, puisqu'ils ont eu que 5000 morts déclarées, et probablement d'après... certains témoignages, il y a eu beaucoup plus de morts, mais on a minimisé ces chiffres. Donc on a une pandémie qui s'est répandue très rapidement, et il faut craindre beaucoup ce qui va se passer en Afrique et ce qui va se passer en Inde. L'Afrique, c'est 1,3 ou 4 milliards, et l'Inde, c'est pareil. Donc on aura potentiellement, on a des bombes dans ces deux pays qui vont payer un très lourd tribut. Dans le cas de la grippe espagnole, d'ailleurs, les pays qui ont eu le plus de morts, c'est la Chine, l'Inde et l'Afrique. Il y a eu beaucoup de morts, en particulier en Sierra Leone, par exemple. Donc l'Afrique va payer un très lourd tribut parce qu'ils n'ont pas de mesure de confinement. Alors je voulais revenir sur le confinement. Le confinement, c'est extrêmement important parce que il y a beaucoup de porteurs sains. Et si vous voulez, quand je disais 40% de la population, mettons 30 millions de personnes, je voudrais dire que de très nombreuses personnes vont être contaminées, vont être en bonne santé, vont être porteurs sains et vont propager le virus. Mais certaines personnes vont faire une maladie très sournoise, puisqu'au début elle peut être assez bénigne, on tousse un petit peu, et vers le 8e jour ça peut s'aggraver avec une détresse respiratoire. C'est là où il faut absolument aller appeler le 15 et aller à l'hôpital pour se faire oxygéner, puis dans les cas les plus graves aller en réanimation. Donc c'est une situation très sérieuse, ça va continuer à augmenter probablement dans les 15 jours qui viennent, en sachant qu'il faut vraiment interpréter les chiffres. Il y a le nombre de décès. Le nombre de décès, c'est le nombre de personnes qui meurent à l'hôpital, c'est aussi le nombre de personnes qui meurent en EHPAD. On n'a pas encore les chiffres, on va les avoir. Et c'est aussi le nombre de décès qui sont répertoriés par l'INSEE. C'est ce qu'on la surmortalité. Et donc, on a déjà une surmortalité, évidemment, décelée par l'INSEE. Et le nombre de contaminés va augmenter beaucoup parce qu'on augmente le nombre de tests. Donc, il faut savoir que en France, on n'a pas fait des tests sur tout le monde. Et les cas déclarés, c'est uniquement les cas déclarés sur la base des tests. Et donc, ce nombre va augmenter considérablement. Mais on sait déjà qu'il est extrêmement élevé, probablement. La population est en train de s'immuniser. Et les efforts actuels, c'est pour essayer de lisser la pente, pour essayer de diminuer la pente et ainsi permettre aux hôpitaux d'absorber tous les patients très graves qui iront en réanimation. Et donc, il faut suivre à la lettre les mesures de confinement. 15 jours, d'accord, en plus, mais ce sera peut-être encore plus. On peut espérer, la vague chinoise a duré environ 10 semaines, avec un pic à 6 semaines. Donc on peut espérer que le pic, si on considère qu'en France, ça a commencé vers le... les premiers cas, c'était c'était fin février, je crois, oui. En France. Il me semble,
enfin, il y a eu un premier touriste chinois qui est mort plus tôt, mais effectivement, fin février, oui.
Et à partir du 17 mars, on a fait le confinement. Donc, on n'aura pas les résultats tout de suite du confinement, mais on va voir probablement la courbe, pas tout de suite, mais dans quelques temps, on va voir la courbe baisser. Et on peut espérer que fin avril ou vers le 15 mai, on puisse avoir une baisse sensible. Mais c'est pas gagné, parce que si vous regardez les chiffres de Corée du Sud, qui ont des précautions, qui étaient prêts à une pandémie parce qu'ils avaient l'habitude, etc., eh bien on voit que leur courbe, elle est assez plate actuellement, et oui. C'est arrêté, mais ça reste plate, ça continue, et donc il est difficile, il faut être très humble devant cette pandémie, il est difficile de prévoir ce qui va se passer, mais on pense quand même, raisonnablement, d'après l'expérience historique, que ça va diminuer et qu'on aura une vague et après on peut avoir des résurgences parce que la population n'aura pas été évidemment totalement immunisée. Si on a que 40%, ben il y a 60% de personnes qui restent sensibles. Si le virus continue à circuler, il y aura une deuxième vague probablement et peut-être une troisième. Dans la grippe espagnole, il y a eu trois vagues.
Patrick Berge, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur les microbes et les bactéries, mais aussi sur l'histoire de la médecine. Alors je recommande particulièrement votre histoire des pandémies, parue chez Odile Jacob, intitulée aussi « Faut-il avoir encore peur de la grippe ?» C'est très éclairant et ça raconte notamment l'épisode de grippe espagnole de 18-19 dont vous nous parliez tout à l'heure, c'est disponible en e-book. Vous avez aussi publié « Gloire et imposture de la médecine ». Et je voulais vous demander simplement, qu'est-ce que nous apprend cette histoire ? Que les gloires et les impostures se dévoilent après coup ?
Oui, gloire et imposture de la médecine, c'est des histoires extraordinaires de, d'imposture d'une part et de merveilleuses découvertes. Par exemple, je donnerais qu'une magnifique découverte, c'est celle de l'insuline par un chirurgien orthopédiste qui en quelques mois a pu isoler cette hormone et qui a eu le prix Nobel au bout d'un an, en 1922 ou 1923, Banting, ça, il s'appelait, et qui a ainsi transformé la vie de tous ces enfants qui mouraient à 14-15 ans de diabète de type 1. Bon, ça c'est une magnifique découverte. Il y a aussi la pénicilline qui est une magnifique découverte qui a été faite par Fleming. Donc il y a des belles histoires et puis des histoires moins bien.
Des histoires moins bien, mais donc le génie incompris qui a une intuition géniale dans son laboratoire contre l'opinion dominante des autres scientifiques, ça existe ? Il y a beaucoup d'exemples ?
Écoutez, il faut... l'hydroxychloroquine, moi ma position est simple. Cette molécule, elle est active in vitro sur la réplication des virus parce qu'elle se concentre dans les cellules et qu'elle casse le cycle viral. Ça c'est une première chose. Donc ce qui a été publié, il y a un papier chinois sur une centaine de patients et le papier de Didier Raoult ne sont pas convaincants pour le moment. En tous les cas, il n'y a pas assez de la méthodologie, on peut discuter, mais pourquoi ne pas essayer ? Effectivement, le public ne comprendrait pas qu'on interdise l'utilisation de cette molécule. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a eu beaucoup de d'échecs sur Ebola, sur des
chikungunya,
l'anivaquine in vivo. Donc, il faut être prudent, le donner de façon compassionnelle. Alors, le conseil scientifique préconise pour de l'utiliser plutôt dans les cas très graves, mais probablement, ce serait plus actif. Si c'était actif, ça marcherait plutôt au début de la maladie, parce que c'est un virus qui se multiplie extrêmement vite, qui est cytolytique et qui a une charge virale très importante, ce qui explique en partie sa contagiosité, puisque les gens qui sont contaminés produisent beaucoup de virus et contaminent leur environnement qui reste pollué pendant quelques heures, voire un ou deux jours. Donc, il faut absolument se laver les mains. Le caractère manuporté de cette infection est très très important et il faut se laver les mains sans arrêt, car en mettant les mains à la bouche, une fois ou deux par minute, à la bouche, au nez ou aux yeux, on peut se contaminer. Et donc, il faut des mesures d'hygiène, des mesures de confinement qui doivent être drastiques.
Merci beaucoup, professeur Patrick Berche, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, question sur la ou les paroles scientifiques et leur légitimité face aux rumeurs, aux théories du complot, avec le sociologue Gérald Bronner.
Europe 1. Jusqu'à 10h, Patrick Cohen est en direct de chez lui pour C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Bonjour Gérald Bronner.
Bonjour.
Sociologue, membre de l'Académie de médecine, spécialiste des croyances collectives, auteur entre autres de la démocratie des crédules. Je crois qu'on n'avait jamais vu dans notre histoire récente les scientifiques placés ainsi sur le devant de la scène, au cœur du débat public et au centre d'une crise majeure. À vos yeux, c'est une bonne nouvelle le retour de la parole scientifique ou elle sert d'alibi aux gouvernants pour se défausser de leurs responsabilités ?
Non, c'est avant tout une bonne nouvelle, même si effectivement on peut avoir un regard critique après en termes de communication et la façon dont peut-être la parole scientifique pourrait être instrumentalisée, mais puisqu'on parle ici d'une pandémie, c'est-à-dire d'un virus, donc d'un problème médical, il me paraît quand même assez légitime d'entendre la parole des experts. Et c'est vrai que si dans un premier temps, l'OMS, au tout début de l'épidémie, nous avait alerté à juste titre sur les risques d'infodémie, c'est-à-dire d'une épidémie d'informations douteuses, voire dangereuses, hein, qui a pu faire d'ailleurs des morts, hein, je pense à l'exemple de l'Iran, où il y a eu le 9 mars, 27 personnes qui sont mortes parce qu'elles pensaient pouvoir se prévenir le coronavirus en buvant de l'alcool, tout simplement, et comme l'alcool est interdit dans ce pays, ben elles ont bu de l'alcool frelaté, et voilà, ça a des dégâts de santé publique. Et bien, dans un deuxième temps, en effet, on a bien vu que le danger se rapprochant, finalement, bien nous tous, nous avions une appétence, un appétit en quelque sorte, un désir d'entendre de la parole experte et scientifique sur cette question. Seulement, voilà, j'ai l'impression qu'on est arrivé un peu à un troisième stade aujourd'hui, qui est celui du confinement, où évidemment nous consultons beaucoup Internet, nous cherchons à nous informer, ce qui est tout à fait légitime, mais nous ne trouvons pas toujours la bonne information. Et donc, on commence à voir ressurgir toute une série de démons conspirationnistes et qui mettent en péril l'autorité de la parole scientifique.
Oui, parce que qui répond aussi à une forme de demande, parce que ce virus, se dit une partie de la vox populi, ça vient bien de quelque part. Donc, il y a des responsables, il y a des coupables.
Oui, alors d'abord, on sait d'où il vient de la nature, hein, tout simplement ce virus, même si un sondage récent de la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch, qui s'intéresse au conspirationnisme, montre, et quand je dis récent, c'est je crois que les résultats ont été donnés aujourd'hui même, que 26% des Français, au moment où le sondage a été fait, pensaient que le virus avait été créé artificiellement, c'est-à-dire en laboratoire. Donc là, c'est pour le moment, dans l'état actuel de la connaissance, c'est totalement faux. Hein. C'est un virus qui vient bien du monde animal vers le monde humain, de la nature. Mais en effet, quand on est confronté, et ça date pas d'aujourd'hui, à une catastrophe de cette envergure, d'ailleurs qu'elle soit une catastrophe de type épidémique ou même une catastrophe naturelle, eh bien l'esprit humain est ainsi fait qu'il cherche une cause, c'est-à-dire un responsable moral. En effet, on a tendance à vouloir avoir une lecture morale et voire manichéenne de quelque chose que nous trouvons très désagréable, c'est-à-dire que le fait qu'une situation soit particulièrement dramatique, inquiétante, pleine d'incertitudes et en même temps dépourvue de sens, puisqu'elle vient par exemple du hasard de la nature, eh bien ça c'est tout à fait insupportable au cerveau humain.
Parce qu'on est sur un terrain largement inconnu, où nos boussoles habituelles ne sont d'aucun secours. La question sans doute que se posent beaucoup de citoyens, c'est qui croire, à qui s'en remettre dans une catastrophe pareille, non ?
Ben, c'est bien normal, parce que d'abord il faut savoir que c'est là le problème dans ce cas de figure, c'est que la connaissance est très très évolutive. Finalement, cette souche de coronavirus est nouvelle, inédite, et donc on a eu toutes sortes d'informations au départ sur sa létalité, sur son caractère contagieux, qui ont pu évoluer au fur et à mesure, on avait les données, n'est-ce pas ? On pouvait croire les plus jeunes d'entre nous prémunis en quelque sorte de la maladie, or on voit que même si ces cas sont statistiquement rare, eh bien, il y a des cas de mort chez les jeunes gens aussi. Donc, bah, tout simplement, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que la connaissance scientifique, elle évolue à mesure que les données nous parviennent. Et puis, évidemment, il y a aussi des controverses à l'intérieur de ce monde scientifique. Bah, des controverses qui sont bien difficiles à comprendre, évidemment, vu de l'extérieur pour les non-experts que nous sommes.
Oui, puisque je parlais de la parole scientifique, mais il faudrait dire les paroles scientifiques, puisque, en quelque sorte, les médecins ou la communauté scientifique comptent un dissident en la personne du professeur Didier Raoult. Et parmi les théories du complot qui circulent, beaucoup en France, celle du complot contre la chloroquine qui serait écartée par les autorités sous la pression des laboratoires pharmaceutiques qui voudraient se gaver, si je puis dire, avec des molécules nouvelles et beaucoup plus chères. Que répondre à cela, Gérald Bonheur ?
Bah c'est difficile, c'est un grand classique. Hein. La théorie du complot est en quelque sorte un monstre vorace qui avale tout, les faits d'actualité pour s'en nourrir. Donc effectivement, là, les déclarations peut-être un peu intempestives d'un professeur par ailleurs reconnu peuvent être ensuite instrumentalisées à son corps défendant. C'est pas la faute de ce monsieur, mais en l'occurrence, je crois que ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'il ne faut pas exagérer la notion de controverse à l'intérieur du monde de la science. Là, je pense que il n'y a pas une vraie controverse. Il y a en effet toujours eu des dissidents dans la science, des gens qui parlent d'une autre façon. Quelquefois, ils ont raison, Hein. Mais le plus souvent, il ne faut pas l'oublier, ils ont tort, n'est-ce pas ? Vous songez par exemple à la question du réchauffement climatique, n'est-ce pas ? Il y a un consensus scientifique, on ne peut pas parler d'une controverse. Donc dans ce cas de figure, concernant la chloroquine, il n'y a pas non plus une controverse, il y a simplement la nécessité de tester une allégation qui a été peut-être faite trop rapidement sous la base de données qui, d'ailleurs, votre invité précédent, Patrick Berche, l'a rappelé, qui ne sont pas, disons, très bien assises sur des considérations statistiques. Et donc voilà, et donc évidemment, tout cela eh bien nourrit la bête, si je puis dire. On va fouiller, alors voilà, dans les intérêts pharmaceutiques. On trouve toujours, puisque la question commence toujours comme cela, à qui profite le crime ? Et donc évidemment, il y a toujours quelqu'un, quelque part, une industrie, une personne à qui une situation, y compris dramatique, peut profiter. Je sais pas, même la peste noire a profité à certaines personnes, vous voyez, en Europe, qui se sont enrichies par héritage. Donc on peut toujours spéculer à l'infini. Comment arrêter cela ? Bah, si on le savait, l'antidote aurait été déjà donné. Ce qui est certain, c'est que le mieux, c'est d'aller s'alimenter aux sources les plus, je dirais, les plus fiables sur cette question. Il y a Info Public France, par exemple. Je pense, par exemple, à l'Académie nationale de médecine et à mes consoeurs et confrères de l'Académie qui ont fait conjointement avec l'Académie de pharmacie toute une série de textes, et notamment sur la question de la chloroquine. Donc, je renvoie vos auditeurs à des sites, je dirais, d'information, d'experts qui sont reconnus internationalement sur ces questions.
Mais il y a l'idée, oui, cite texte qui rappelle effectivement que la démarche scientifique se doit d'être rigoureuse, mais cette idée d'une démarche scientifique qui obéit à des protocoles, à des standards, etc., elle est balayée par une forme de bon sens qui dit dans une situation d'urgence, pourquoi ne pas essayer ? Qu'est-ce qu'on risque ? C'est la balance bénéfice-risque qui apparaît déséquilibrée là et plutôt en faveur de l'usage tout de suite de ce médicament promu par le professeur Raoult.
Mais oui, j'ai bien entendu, je ne suis pas médecin moi-même, hein, donc il faut avoir l'humilité de parler selon sa compétence, mais en revanche, on peut analyser les arguments. Le problème, c'est qu'effectivement, ce type de déclaration un peu intempestive, elle crée des dommages collatéraux, n'est-ce pas ? Parce que des gens prennent ça au sérieux, ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit, et vont, par exemple, ingérer, comme aux États-Unis, des substances qui contiennent de la chloroquine, mais qui sont mortelles, hein, et d'ailleurs, elles en meurent, en l'occurrence. Et puis après, cela aussi crée des questions de stock de ces médicaments qui, par ailleurs, ont un usage, par exemple, pour l'arthrite rhumatoïde. Hein. Donc, en fait, il y a un certain nombre de patients qui craignent de ne plus en avoir en raison de la précipitation de certains d'entre nous vers ce type de produits. Et par ailleurs, il y a un autre problème aussi dans cette précipitation, c'est que du coup, si c'était, nous souhaitons tous que le professeur Raoult ait raison, que les choses soient claires. Moi, j'adorerais qu'on ait d'ores et déjà un médicament contre ce virus. Mais le problème, c'est que c'est aussi des fonds publics. Si on va jusqu'au bout de certaines hypothèses infondées, bien on tombe dans des impasses. Mais ceci dit, cette hypothèse, elle est testée à l'heure actuelle par un essai européen qui s'appelle Discovery. Donc, c'est pas du tout une hypothèse qui est pas prise au sérieux, mais il faut en tester d'autres et il ne faut pas croire que le remède miracle a été trouvé d'ores et déjà. En tout cas, c'est pas ce que la science dit dans l'état actuel de la connaissance. Nous ne pouvons parler que comme ça. Après, peut-être que le professeur Raoult aura raison, mais peut-être qu'il aura eu raison pour de mauvaises raisons. Vous voyez, ça arrive parfois.
Donc, deux slogans pour vous et en ce temps de crise, restez à la maison et restez à la raison. Hein ça vous va, Gérald Bonner ?
Oui, tout à fait.
Je l'ai piqué à Libération.
Je sais que c'est pas facile. Hein, moi-même, je déraisonne parfois. Mais enfin, il faut essayer de rester sur ces rails-là, en effet.
Merci beaucoup, Gérald Bonner, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Et merci d'avoir suivi cette émission préparée par Marina Pruzès, réalisée par Julien Blanc. Je vous retrouve demain 9h10 avec, parmi mes invités, le prix Nobel d'économie, Jean Tirole. Dans quelques minutes, Mediapolis. Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Patrick Cohen. On est tous à la maison et on va tous essayer de parler en raison, tous, c'est-à-dire évidemment Catherine Ney et notre invité Édouard Le Cerf, politologue et sondeur, qui sonde d'ailleurs pour Europe 1.
Bonne journée. À l'écoute d'Europe 1, merci à vous.